Précisément 18h sur France Culture, le journal Isabelle Souquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir. Le Liban dans l'impasse après le renoncement du Premier ministre. Emmanuel Macron, fer de lance de l'aide à la reconstruction du pays, tient ce soir une conférence de presse sur ce sujet. Depuis 30 ans, Azerbaïdjan et Arménie se disputent le Haut-Karabakh. La tension a très sérieusement monté aujourd'hui. Des combats dans la province qui est au bord d'une guerre. Confinement, deuxième vague, renforcement des mesures, injonctions contradictoires. Toujours cette impression pour les Français que la lutte contre la pandémie se fait en ordre dispersé. Et donc avec nous aussi Gabriel Attal, invité de Soft Power juste après ce journal. On en profite pour lui demander quelques réactions sur l'actualité. Au Liban, aucune perspective de sortie de crise pour le pays après le renoncement hier du Premier ministre de former un gouvernement. Cela semble signer un échec pour Emmanuel Macron qui avait lancé une initiative de réforme après la terrible explosion du 4 août dernier, exhortant le pays à former un gouvernement de ministres compétents et indépendants dans les 15 jours. Ziad Majed, vous êtes politologue et professeur à l'Université américaine de Paris. Selon vous, cette initiative a-t-elle fait long feu ?
En fait, il est difficile d'évaluer encore les effets de cette initiative. Il est vrai qu'elle a mis la pression sur la classe politique libanaise, mais en même temps, c'est une classe politique résiliente, notamment le Hezbollah, qui n'ont pas nécessairement intérêt aujourd'hui à former un gouvernement et à commencer des chantiers de réforme, comme le président français l'avait annoncé à Beyrouth. Donc, c'était un peu peut-être une aventure d'évoquer 15 jours comme des et de penser que la pression va être suffisante pour faire plier des ténors de la vie politique libanaise.
Pourquoi dites-vous qu'il n'y avait pas intérêt ?
Parce que d'un côté, on savait que Hezbollah attendait les ordres ou la décision de Téhéran. Et en Iran, on pense beaucoup plus à la position américaine et aux élections américaines qu'à la position européenne ou française. Donc si les Iraniens comptaient sur une échéance électorale aux États-Unis, ils n'allaient pas respecter des délais que la France allait imposer ou souhaitait imposer. Ce qui fait que d'un côté, Hezbollah et son allié chiite, le mouvement Amal, ont mis des conditions qui ont rendu la formation du gouvernement impossible. Et en même temps, les autres acteurs politiques sont à la fois médiocres au niveau de leur poids politique et en même temps incapables de former tout seul un gouvernement souhaité par les Libanais comme par le président français.
Merci Ziad Majed. Gabriel Attal, une question pour vous. Le président de la République s'exprime ce soir à l'Élysée sur ce sujet. Qu'est-ce que va dire Emmanuel Macron en avant-première ?
C'est compliqué pour moi de m'exprimer avant sa conférence de presse. Il y a une préoccupation très forte de la France sur la situation au Liban, qui date d'ailleurs d'avant l'explosion, puisque bien avant l'explosion, Jean-Yves Le Drian s'y est rendu à plusieurs reprises pour essayer de trouver une solution politique à cette crise. Évidemment, suite au drame de l'explosion et à l'apport très fort de la France et l'apport international qui a été initié par la France, il y a un souhait porté par le président de la République de réforme et d'une transition politique dans ce pays. Il y a aujourd'hui une situation de blocage, on l'a vu, et le président de la République va s'exprimer dans les prochaines minutes pour en parler, et je peux difficilement vous dire ce qui va dire avant.
J'imagine, mais vous avez entendu à l'instant Ziad Majed dire que 15 jours, c'était irréaliste de la part du président de demander ça.
Je pense qu'il faut être ambitieux. Je pense qu'il y a une situation d'urgence au Liban et le président a eu l'occasion de le voir quand il s'y est rendu. Il a même été interpellé par des citoyens libanais et donc il faut être ambitieux pour que les choses avancent. Maintenant, encore une fois, il aura l'occasion de dire comment il voit la suite ce soir.
On va l'écouter alors ce soir. Autre actualité, la Biélorussie, 200 personnes arrêtées, oui, aujourd'hui en Biélorussie, à l'occasion de nouvelles manifestations contre le président Alexandre Loukachenko. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour contester sa réélection. 350 personnes au total auraient été interpellées ce week-end. Emmanuel Macron, je reviens aussi vers vous, a dit ce matin en interview qu'Alexandre Loukachenko devait partir. Le président commence demain un voyage dans les pays baltes. Est-ce qu'il va rencontrer l'opposante à Loukachenko, Svetlana Tikhanovskaya, qui est en exil en Lituanie ?
Je crois que ça n'est pas exclu. C'est pas encore totalement arrêté. Elle a eu des contacts téléphoniques avec le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. Le président de la délégation française du groupe Renew au Parlement européen est allé la rencontrer aussi en Lituanie. Et le président s'y rend donc pour, là aussi, faire avancer une solution politique face à un pourri assombrissement d'une situation dont on voit qu'elle entraîne une répression particulièrement violente. Le président l'a dit, il faut maintenant une transition. Il y a un dialogue pour ça exigeant avec nos partenaires, notamment la Russie, pour trouver une solution.
Autre actualité internationale, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont aujourd'hui au bord de la guerre. En cause, la province du Haut-Karabakh. Des combats ont eu lieu entre les forces d'Azerbaïdjan et les séparatistes de cette région, soutenus par l'Arménie. Une province qui a décidé la loi martiale et la mobilisation de tous les adultes de plus de 18 ans. Les belligérants ont déjà annoncé des pertes militaires et civiles. Si le conflit s'envenime encore, la Russie et la Turquie pourraient à leur tour y prendre part. La situation au Nagorno-Karabakh nourrit des tensions entre eux depuis une trentaine d'années maintenant, Marie-Pierre Véraud.
Depuis le début de l'été, les violences avaient de nouveau éclaté de manière sporadique, mais les combats qui ont débuté à l'aube entre les forces azerbaïdjanaises et celles de la région séparatiste du Nagorno-Karabakh soutenue par l'Arménie sont les plus intenses depuis plusieurs années et font peser le risque d'un embrasement du Caucase du Sud. L'enclave du Nagorno-Karabakh, située au sein du territoire azerbaïdjanais mais peuplée d'Arméniens, est le théâtre de ce que l'on appelle un conflit gelé entre les séparatistes arméniens d'un côté et les forces armée azerbaïdjanaise de l'autre. La guerre y a fait plus de 30 000 morts dans les années 90, avant l'instauration d'un fragile cessez-le-feu. Les tensions y restent très vives, alimentées par les nationalismes de chaque côté. Comme lors des précédents épisodes, l'Azerbaïdjan et l'Arménie s'accusent mutuellement d'avoir déclenché l'offensive. Chacun clame aussi avoir abattu tanks ou hélicoptères de l'ennemi sans qu'il soit possible de vérifier ces affirmations. Des civils auraient été tués selon Yerevan qui parle d'une femme et d'un enfant. L'Azerbaïdjan dit avoir conquis une demi-douzaine de villages. La capitale de l'enclave Stepanakert subit des bombardements. Une situation compliquée par les influences régionales. Moscou est liée en effet à l'Arménie par un pacte de défense et dispose d'une base militaire stratégique sur place, mais livre des armes aux deux parties. La Turquie, elle, proche de l'Azerbaïdjan, menace d'intervenir contre les forces arméniennes. La communauté internationale dit son inquiétude. Moscou et Paris, qui parrainent un processus de normalisation, le processus dit de Minsk, appelle à un cessez-le-feu immédiat.
Marie-Pierre Véraud. Au Yémen, un accord historique sur un échange de prisonniers après une semaine de discussions sous l'égide de l'ONU. Le gouvernement yéménite et les rebelles houthis étaient convenus d'échanger 15 000 prisonniers dans le cadre de l'accord de paix conclu il y a 2 ans, mais qui n'avait pas encore pris forme. C'est donc le premier échange à grande échelle puisqu'il concerne pratiquement 1100 personnes. La Suisse ne reviendra pas en arrière sur la liberté de circulation en Europe à une large majorité. Les Helvètes ont repoussé la proposition du parti de la droite populiste de maîtriser l'immigration en restreignant la circulation des étrangers. En revanche, pendant la même votation, les Suisses ont entériné avec une large majorité encore plus grande le principe d'un congé paternité qui n'existait pas encore dans le pays. En France, plus de 48 heures après l'attaque au couteau à Paris, l'enquête antiterroriste se poursuit autour du parcours du principal suspect qui a reconnu vouloir s'en prendre à Charlie Hebdo. 9 personnes sont toujours en garde à vue, celle du principal suspect a été prolongée. Les enquêteurs s'intéressent aussi à une vidéo qui est en cours d'authentification, une sorte de manifeste. L'homme y annoncerait son passage à l'acte, mais sans que ce soit une réelle allégeance à une organisation terroriste. Il n'y aura pas de confinement préventif avant Noël. Olivier Véran a répondu aujourd'hui à la proposition de 2 prix Nobel d'économie qui présentaient cette mesure comme un moindre mal pour éviter un confinement plus long et généralisé. Le ministre de la Santé qui n'exclut pas des mesures de restriction de déplacement pour les vacances de la Toussaint et qui exhorte à se vacciner contre la grippe dès le début de la campagne de prévention à la mi-octobre. Il rejoint donc les préoccupations de l'ordre des médecins, Sandy Dauphin.
Situation tendue et préoccupante, voilà comment le président du Conseil national de l'Ordre des médecins décrit la progression de l'épidémie Covid en France, Patrick Bouet.
Nous allons vers un hiver compliqué parce que contrairement à ce qui s'est passé en début de l'année, il n'y aura pas que la Covid-19. Il y aura les affections saisonnières, il y a le retard que nous avons pris dans la prise en charge des autres pathologies du fait de la fermeture d'un certain nombre de services dans les hôpitaux. Donc nous allons être confrontés à ce qui fait déjà la difficulté de l'hiver en temps normal, et il y aura la Covid-19.
Le président de l'Ordre des médecins regrette qu'on n'ait pas profité de l'accalmie de cet été pour mieux se préparer. Au lieu d'appliquer les mêmes recettes qu'en février dernier, la priorité, c'est une meilleure coordination entre tous les acteurs de santé.
Le premier des principes, c'est travailler tous ensemble, tant au niveau national que dans les régions. Le deuxième, n'encombrez pas l'activité des professionnels de santé avec de l'administration. Ce n'est pas la peine de demander aux médecins de faire des certificats pour retourner à l'école. Et puis enfin, il faut coordonner les activités. On ne va pas à nouveau se retrouver avec un centre 15 encombré par des appels et des urgences encombrées par des patients.
Pour l'Ordre des médecins, il faut mettre en place rapidement des comités de suivi dans les départements et être prêt à affronter l'hiver à la mi-octobre.
Sandy Dauphin. Gabriel Attal, cette pandémie des sommités propose un confinement préventif. Le ministre de la Santé retoque cette idée. Est-ce que le gouvernement est à l'écoute des experts?
Bien sûr, il faut écouter toutes les propositions qui sont faites et les regarder. Et en l'occurrence, une proposition qui est faite par des économistes. Il faut la regarder aussi à la lumière du fait que ce sont des économistes et non des scientifiques, des médecins. Mais il faut tout regarder. Maintenant, nous, notre objectif, c'est d'éviter un reconfinement à tout prix. Donc, y compris d'avoir à faire un reconfinement préventif comme c'est présenté. On est à un moment charnière, on peut encore empêcher de retomber dans cette situation. Il y a un virus qui circule fortement en France, plus fortement dans certains territoires que dans d'autres. C'est pour ça qu'on prend des mesures spécifiques sur ces territoires. Mais on a encore le temps de se ressaisir et d'éviter un nouveau confinement qui serait bon ni pour notre économie, mais plus encore pour la santé des Français, puisqu'on a vu ce que ça avait impliqué au printemps dernier.
Et la ligne de crête entre l'économie et la santé est extrêmement difficile à tenir. Évidemment, un dernier mot pour la météo, une semaine qui commence par des épisodes pluvieux. C'est le feuilleton de Météo France pour la semaine, avec un peu de répit demain sur le littoral atlantique et en bord de Méditerranée. Température 3 à 13 degrés de minimale, 13 à 23 degrés au plus chaud de la journée.